dans le désert du papier. Dans le désert du papier blanc, mes vieux chameaux de mots naviguent, croisant parfois les ossements d'un poème mort de fatigue. J'ai soif. Bédouin brûlé par l'aveuglant néon d'un néant, sèche douche. Je marche, marche, m'ensablant, un bâillon d'encre sur la bouche. J'ai soif. Il est des bouches oasis, tout enchantées de phrases fraîches. La mienne suce le supplice d'une langue qui se dessèche. Pourquoi me suis-je, ah là là, aventuré parmi ces dunes? Croyais-je y rencontrer Allah, son burnous en bure de lune? Il m'aurait dit, ta soif me plaît, voici ma gourde d'eau mentale. Alors, j'eusse bu les couplets d'une chanson fondamentale. Une chanson à l'infini d'un souffle neuf, brisant ces noces qui nous font naître dans un nid halluciné de becs féroces. Une chanson puisée ailleurs qu'à la litanie de nos plaintes, mêlée aux hymnes fossoyeurs dans le poumon des guerres saintes. Une chanson calmant la soif de nos soifs enfin inondées.
Salut Daniel. J'appelle là parce que j'ai allumé la radio juste avant les nouvelles. Et putain, j'ai entendu que, excuse-moi, Nougaro est mort, sans déconner, ça me bouleverse. C'est un mec que j'adorais vraiment depuis très très longtemps. Je suis pas tout jeune moi. Et je me souviens de son Olympia 69, ce double album que j'ai écouté. Et puis on aime d'autant plus les gens qui expriment ce qu'on ressent profondément, quoi. Et il y a des dizaines de chansons que j'aime follement de lui. Mais il y a deux textes, tu vois, que j'aurais voulu écrire. C'est tellement ils sont beaux, quoi. C'est Klaus et le chant du désert qu'il disait, qu'il ne chantait pas. Voilà. Et quand j'ai appris ça, t'es le premier que j'ai voulu appeler, voilà. Je pense que tu devais bien aimer, quoi. C'est un mec, voilà. J'ai très, le chant du désert, c'est un texte que j'ai très très souvent dans ma tête, ça passe, je veux pas exagérer, mais il se passe pas peut-être une semaine sans qu'il défile dans ma tête, quoi. Dans le désert du papier blanc, mes vieux chameaux de mots naviguent, croisant parfois les ossements d'un poème mort de fatigue. J'ai soif. Je peux pas aller plus loin.
Oui, qu'une pluie enfin nous coiffe d'une chevelure d'idées. Idées dictées pour en sortir de nos mariages et leurs divorces, de nos bourreaux et leurs martyrs, de nos contrats et leurs entorses, de nos salam salam alek au sommet sec de nos puissances. Quand nos enfants claquent du bec dans la patrie de l'innocence. J'ai soif, soif, et me voici là devant vous. chemin, but de ma course. Les doigts tendus comme des trous vers la lumière d'une source. J'ai soif, source, champ source, jaillit, jaillit.
Voilà, Nougat a replié ses gaules. C'est nos joies, nos peines aujourd'hui. La peine d'abord, et puis la joie ensuite. La joie venait toujours après la peine. Et la joie, évidemment, c'est hier soir, à la prison de la santé, la libération provisoire de l'écrivain italien Cesare Battisti. Vous connaissez l'histoire, voilà les images sonores. Alors un paquet de CRS qui repousse les journalistes, des caméras, et dans le paquet au milieu, on aperçoit Cesare le long du mur. Il le largue ici.
Allez. Une petite question, comment vous vous sentez après plus de 3 semaines d'emprisonnement? Comment vous vous sentez aujourd'hui?
Encerclé. Non è con la vendetta che si risolvono le cose. On est nombreux, tous dans la même situation. Et tous, on est sous les dangers qu'un changement d'air et hop, on tombe dans l'abîme. Ça suffit. Il faut que ça s'arrête une fois pour toutes. Il faut que la France respecte sa parole.
Bravo! Bravo!
Vous voulez bien que de la même façon, vous vous intéressez aussi à Nathalie Ménigo, qui est en train de crever dans une cellule de la prison de Bapaume. Pensez-y. Et avec elle et ses camarades, que ça fait 15 ans qu'ils sont en tôle.
Cesare, ça va? Tu te sens bien?
Oui.
Super. Bravo. Bravo.
Ta voix, qu'est-ce qu'elle va plus faire? Comment pensez-vous que la prison, ça c'est strictement rien? C'est une usine à délinquance, c'est fait exprès, c'est la seule usine où il n'y a jamais de chômage, parce que c'est la seule qui marche.
Bon, maintenant, tu en es où au point de vue judiciaire, là? C'est...
Moi, j'ai bien compris, je dois signer une fois par semaine. Donc, j'ai gagné une signature au commissariat de mon arrondissement, je crois.
Tu t'attendais à cette arrestation?
Bon, non, pas du tout. Non. Mais cette affaire, on dirait qu'on les maintient comme ça, exprès, parce que ça doit servir à quelque chose, je ne sais pas quoi exactement. Je ne vois pas pourquoi ils doivent résoudre définitivement cette question. Voilà, donc, de quelle utilité nous serons? Est-ce que l'Italie est vraiment intéressée à nous avoir? Pour quelle raison ils continuent à nous persécuter de cette façon-là? Je ne pense pas que nous représentons un danger, ni pour la France, ni pour l'Italie, ni pour nous-mêmes d'ailleurs. Et les perbenades, ça suffit les perbenades, vous savez? Parce que là que ça commence à y faire maintenant. Et avec toutes leurs manigouilles possibles, ils n'arriveront pas à m'extrader. Techniquement, ils ne peuvent pas. Il faut que l'Italie assume la responsabilité, que l'État italien assume sa propre responsabilité. Parce que nous, de notre part, le mouvement italien l'a assumé et l'a payé cher. L'État italien ne l'a pas assumé, ne le veut pas assumer. C'est pour cette raison-là qu'il continue à maintenir cette situation-là. Parce que jusqu'à nous sommes là, nous sommes toujours les terroristes qu'il faut mettre en prison et nous sommes toujours les ennemis d'un État qui a fait ce qu'il a fait et qui continue à faire d'ailleurs. La responsabilité, c'est l'État italien et les gens qui aujourd'hui représentent l'État italien, à mon avis, n'ont pas la légitimité morale pour juger qui que ce soit.
T'as compris le soutien que tu avais?
Oh là, oui.
Oui, non mais ça t'est parvenu
Ah oui.
Comment?
Eh ben, d'abord les journaux, puis parfois j'entendais même crier dehors, et puis la radio, il y avait tout quoi. C'est pour cela que j'ai vraiment jamais été seul.
Ouais. c'est un coup de pub formidable pour ton prochain bouquin, c'est ça?
Je dois peut-être remercier Père Ben. Quand j'ai vu qu'il y avait tous ces soutiens dehors, vraiment, c'était... Moi, je ne croyais pas. Quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de si bon?
On se le demandait, nous aussi. Là.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf et François Brune. Là-bas, si j'y suis, c'est pas la pensée qui est unique, c'est la réalité.
Flight number 2, arriving from New York.
Quand je suis petite dans mon salon, mes invités s'en vont.
Cette jeune femme devrait essayer Airwick Déco Spray avec sa fine céramique et son parfum raffiné.
Merci Airwick Déco Spray. Maintenant, mon salon garde mes invités et ça dure. Ça dure. Tadam ! Airwick Déco Spray, des parfums qui changent la vie.
Tu es le soleil de ma vie.
Mon nouveau Nokia 7210, c'est un grand sorcier qui me donne le temps d'avoir du temps. Avec le WAP, j'accède immédiatement au service internet mobile, je consulte le trafic routier, je confirme mes rendez-vous par mail et j'envoie même des fleurs.
Nokia Connecting People.
Chez Flunch, notre premier engagement, c'est d'offrir pour tous les goûts un large choix de produits de qualité. En mars, le menu jambon rôti à la découpe avec légumes à volonté plus une boisson, 39,90€.
On va fluncher!
Vous en avez pas marre de ces merdes. La pub est con. La pub vous prend pour des cons. C'était un slogan. Une phrase qui revenait souvent sous la plume de François Cavanna, d'Harakiri, au début des années 70. La pub est con, la pub vous prend pour des cons. Et puis, la critique de la pub, l'anti-pub, la publiphobie a vieilli, est devenue ringarde, bof, bof, bof. Non, c'était les publivores, les publiphiles qui ont pris le devant de la scène et puis voilà, on s'est complètement habitué, on a complètement accepté la pub partout, pas seulement à la radio, pas seulement à la télé, mais dans nos vies, dans notre intimité la plus complète. Et puis, depuis quelques temps, quelques mois, années, mais surtout depuis quelques mois, et là, ces jours derniers encore, voilà que... Il y a une prise de conscience, une reprise de conscience, ou une surprise de conscience, comme on voudra, de jeunes, la plupart sont très jeunes, qui en ont marre de la pub et qui trouvent à nouveau que la pub c'est con et que la pub nous prend pour des cons. Alors c'est un mouvement multiple qui ne se limite pas à un seul mot d'ordre, et puis il y a plusieurs approches, et c'est ce qu'on a essayé de comprendre un peu aujourd'hui avec des reportages de Thierry Scharf et puis avec François Brune, allez hop, on va le catégoriser comme un intello. Il est professeur, il est écrivain, il collabore souvent au monde diplomatique et il fait partie de RAP, R-A-P, refus, résistance à l'agression publicitaire, et il est un peu, je vais le vexer, le maître à penser un peu de tout ça. Enfin, en tous les cas, il est une référence à tout ce mouvement des anti-pubs, et donc on va le retrouver aujourd'hui. La pub est con, la pub vous prend pour des cons.
J'ai la télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je sais choisir mon déodorant corporel, ma crème, mon tonique, mon parfum personnel. Je comprends mieux ma femme, je me rapproche d'elle. Je sais danser le jack, j'ai un slip rassuré elle. Je suis heureux. Je suis un homme de gauche, mais la gauche a vieilli. Il faut évoluer, c'est la loi de la vie. Je ne dis pas cela parce que je suis nanti. D'ailleurs, tout ce que j'ai, je l'ai eu à crédit. Je suis heureux. J'ai la télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux.
Ça, c'est mon parfum. Et ça, c'est le parfum de notre maison. Ambipur parfum d'intérieur. Des fragrances délicates diffusées à volonté dans votre maison. Ambipur parfum d'intérieur.
Et maintenant, découvrez Ambipur Car, le nouveau parfum spécialement conçu pour votre voiture. Ambipur Car, le parfum de votre voiture.
Derrière. Donc alors, derrière.
Ah, on s'attaque à l'abri.
Hyper qui a les ampoules standards au prix le plus bas de la région, il n'y en a qu'un. Mais j'emmerde les hyper et j'emmerde la pub. L'espace public est à nous. L'espace public, c'est pour l'art, pour la culture, pour les activités gratuites, pour les activités à but non lucratif. Il y en a marre du commerce partout qui s'étale dans nos villes, sur nos murs, dans nos métros. C'est un monopole d'expression. Indigne, luttons contre la pub.
Ah, il y a le papier craft qui arrive. Là, vous recouvrez, hein, vous collez.
On recouvre simplement, et puis ensuite, qui veut peut écrire dessus. Comme ça, c'est pas destructif, c'est pas violent. Toutes nos actions sont non violentes et revendiquées, bien sûr. Nous sommes des citoyens qui essayons d'être aussi libres que possible.
Toi, tu fais partie d'un mouvement structuré, ou comment ça se passe, ces recouvrements d'affiches?
Ah non, les recouvrements, c'est uniquement le fait d'individus comme ça qui se retrouvent. C'est tout.
Vous vous contactez par net, par portable, par...
On entend parler des choses et on vient chacun pour soi et puis on se retrouve sur place, franchement. Ça se fait très facilement.
Alors voilà, ça y est, des nouveaux terroristes. Des nouveaux terroristes, ils sont partout. Depuis quelques temps, on parle de plus en plus d'eux. Ils font parler de plus en plus d'eux. Et ils sont de plus en plus visibles dans la mesure où ils interviennent sur des pubs. Partout, ces pubs sont là. Ça nous semble, ça fait partie de ces choses naturelles. Eh ben non, pour ces groupes, alors ça s'appelle La Meute, ça s'appelle Mix Cité, ça s'appelle Stop Pub, ça s'appelle Collectif contre le public. Sexisme, ça s'appelle les casseurs de pubs, qui eux disposent d'un magazine qui a été créé par des pubs bars repentis. Il y a Paysage de France, il y a enfin et puis Rap, résistance à l'agression publicitaire que j'ai déjà évoqué, qui a été créé en 1992. Donc on voit qu'il y a vraiment un mouvement contre la pub. Et bon, il y a une publiphobie évidemment de épidermique, de surface, de ras-le-bol. Et puis on essaye d'aller évidemment vers plus de compréhension, de signification, aller chercher par en dessous d'où ça vient, qu'est-ce qui se cache derrière, parce qu'évidemment la pub fait partie dans notre vie actuelle de tout cet ensemble qui se présente comme non idéologique, hein. Depuis quelques années on dit il n'y a plus d'idéologie, c'est la fin des idéologies. Il y en a plus. Évidemment que les médias transportent, sont des vecteurs extraordinaires d'idéologie, d'idées, c'est partout. Et puis évidemment la pub véhicule une idéologie, au moins l'idéologie de la normalité d'abord, et puis l'idéologie ensuite évidemment de la marchandise. Et il y a à tout cela des résistances. Alors il y a les capacités extraordinaires de ce système à tout récupérer, mais qui dit qu'un jour ça n'aura pas un terme. François Brune est auteur, sort ces jours-ci un livre qui s'appelle « De l'idéologie aujourd'hui », analyse parfois désobligeante du discours médiatico-publicitaire, et c'est chez Parangon. Alors j'ai évoqué la critique de la pub des années 70. Je crois que si on remonte dans l'histoire, on doit trouver des critiques de la pub, même dans les années d'avant-guerre, après-guerre, etc. Ça a dû être constant, cette critique. Mais pourquoi est-ce que cela revient aujourd'hui, François Brune? Pourquoi ça ressurgit aujourd'hui? On va parler de rap, là, votre mouvement dont vous êtes un peu l'initiateur, l'instigateur. Mais pourquoi aujourd'hui à nouveau cet intérêt à lutter contre la pub?
Alors bon, il y a, comme toujours dans ces cas-là, c'est pluridimensionnel, si vous voulez, plurifactoriel. Bon, il y a d'une part, effectivement, la continuation ou l'expression de façon beaucoup plus directe par des associations comme RAP, bon, Résistance à l'agression publicitaire, Paysage de France, les féministes, Florence Moreno avec la Meute et les chiennes de garde, voyez, bon.
C'est beaucoup de monde, ça, hein.
Oui, ça fait beaucoup
la
de
meute,
monde.
Mixité, oui, bien sûr. Le collectif contre le publisexisme, les casseurs de pubs.
Oui, c'est ça.
Alors, Paysage de France, ça fait du monde, hein.
Casseurs de pubs,
ça fait beaucoup de mouvements.
Oui, Casseurs de pubs est arrivé en 99. Bon. Ouais. Et puis, il y a eu cette floraison de livres dans les années 2001-2002, le No Logo de René Klein, oui, bon, il y a eu le livre de Bey Bédé, effectivement, qui a été un plouf, un pavé dans la mare, vous voyez. Il y a eu, effectivement, aussi les numéros spéciaux du Monde Diplomatique, de Charlie Hebdo, sur le problème de la publicité. Mais alors, pourquoi tout d'un coup ça a fleuri? Ben, pour une raison très simple, c'est que il y a une oppression qui est croissante. Et cette oppression croissante finit par produire des effets de jaillissement, de réaction, et notamment, et c'est ça qui est intéressant, de la part des plus jeunes. Alors, pourquoi réagissent-ils comme ça? Alors, je crois que c'est parce que le fond même de la publicité est de produire de la frustration. Mmh. Bon. Alors, ce qui s'est passé depuis 4 ou 5 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des situations précaires. Et donc, l'écart, si vous voulez, entre la paupérisation, d'une part, et d'autre part, les étalages sur les murs d'une société dite d'abondance, de fausse image de bonheur, ça crée effectivement une tension, qui finit par se manifester dans des collectifs, dans des jeunes qui voient bien les choses, qui ont compris que, et qui se disent, il faut y aller.
On fait des erreurs au quotidien sur TF1. Une petite pause toute courte et nous revenons après celle-ci.
Ah, alors là il y a toute une technique pour ouvrir l'abribus.
Ça vient les clés ?
C'est pas mal ça, vous arrivez à ouvrir
le... C'est juste un tuyau de PVC en fait, et avec ça, ben, l'iconoclaste va.
Avec ça vous arrivez à ouvrir le panneau d'affichage de l'abribus.
Juste avec un tube de PVC, normalement, bon là on a un peu de problème, mais bon l'erreur est humaine. Hein.
Vous êtes lancé dans ces actions contre la pub depuis combien de temps ?
Ben alors, c'est
la deuxième en fait. Hein. Ouais. Depuis la deuxième au mois d'octobre, octobre-novembre.
Ouais, en fait, c'était les appels du collectif des intermittents. Donc moi, j'en ai.
Vous êtes intermittent ?
Non, je suis étudiant.
Étudiant et toi ?
Ah ouais, étudiant.
Quels âges ?
Moi, j'ai 21 ans.
20. Donc, et la pub, vous saturez. Pourtant, vous êtes des enfants, des petits enfants de la pub.
De la société de consommation, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais, ben disons, je sature. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir dans la rue et partout uniquement des images qui font vendre. Moi par exemple, j'ai ma sœur qui bosse en crèche, qui est puéricultrice. Elle me dit que les mômes reconnaissent le logo McDo presque avant de savoir dire papa maman quoi. J'extrémise un peu, mais dans le fond c'est un peu ça quoi.
C'est vraiment des nouvelles formes de lutte qui s'expriment actuellement. T'as beaucoup de trucs quoi. Un mouvement anti-pub, c'est un peu le fer de lance. On peut se rendre compte que les intermittents, ils ont été à la base de plein de trucs qui n'étaient pas encore nés en France, quoi. Le mouvement Desobedienza Civile en Italie, il est né en France avec les intermittents de manière complètement informelle, quoi. C'est-à-dire, donc, c'est un mouvement désobéissance civile, complètement non-violent, qui dit qu'à partir du moment où le système fonctionne pas bien, t'as le droit de le remettre en cause de manière civile. T'as le droit de t'opposer parce que tu trouves que c'est pas normal et que c'est injuste comme système, quoi. Et donc, il y a pas mal de trucs qui se font dans ces idées-là, quoi. On a été, par exemple, nous, on a été faire une occupation du Club Med à la place de la République, parce que, en fait, dans notre fac, il y a une licence professionnelle que le mec est en train de se créer, quoi. Donc, c'est-à-dire que le mec peu à peu rentre dans le capital de la fac, et investit, et peu à peu a du pouvoir au niveau des cursus, etc. Puisqu'il crée une licence pro pour former des gens à travailler que dans le Club Med. C'est l'entrée de capitaux privés à l'intérieur de l'université, et donc c'est la marchandisation de biens publics, quoi.
Qu'est-ce que tu mets, toi, quand tu recouvres des affiches? Qu'est-ce que tu inscris dessus?
J'aime bien mettre des contrepétries, des trucs un peu marrants, enfin j'essaie de pas être trop prise de tête, soit je... Voilà, des contrepétries, des trucs marrants...
Du genre
à Beaumont le Vicomte, à Beaucon le Vimonte... moi, ce que j'aime dans le clip de Madonna, c'est le son. Enfin, des trucs, des espèces de petites phrases comme ça. Plus de poésie, moins de pub. Je sais pas. Enfin, ça vient sur le moment aussi, quoi. J'ai pas de liste particulière à mettre, quoi.
Alors, on en a mis un qui a bien fonctionné, qui est passé dans tous les médias. C'était Reclaim the Street. C'est un mouvement, justement, des obéissants civils anglais qui voulait se réapproprier l'espace à partir du moment où tu considères que l'espace t'appartient, l'espace est un bien public, et donc tu te réappropries les publicités, les espaces. Comme ça, et tu reprends pour toi, quoi. Donc c'est réclamer la rue, quoi. C'est ça le mouvement.
C'est dans les situations extrêmes que l'on reconnaît l'efficacité de son déodorant. Mémène invente le gel antitranspirant X-Treme. Un parfum très frais, une texture non collante qui ne laisse aucune trace. Testé dans des conditions extrêmes, 40 degrés, 50% d'humidité. Il est ultra efficace jusqu'à 48 heures. Pour les situations les plus extrêmes, les plus délicates. Nouveau gel antitranspirant X-Treme. Mémène, une efficacité d'avance pour nous, les hommes.
Vous voyez comment c'est la pub, on est passé de la virilité virile des mecs canons. Et puis, ça c'est beau quand même, hein. Ah, séduction. Séduction de la pub. La pub sait séduire, la pub dépense mais une énergie aussi bien en termes de budget, là, mais aussi en termes de talent, d'art, de science, de connaissances pour arriver à nous séduire. Pourquoi ça? Eh bien, Jacques Séguéla répond, il nous dit, nous ne pouvons nous développer qu'en société de surconsommation. Ce surplus est le nécessaire du système. Ce système fragile perdure seulement par le culte de l'envie. Et il sait de quoi il parle. Et ce monsieur est omniprésent. Il véhicule cette idéologie qui se manifestait, je ne sais pas si vous vous souvenez de pages entières dans nos magazines, qui disait, êtes-vous un publiphobe qui s'ignore? Et alors le publiphobe était sous l'aspect d'un pauvre type, complètement introverti, quelqu'un d'archaïque, de ringard, de déjà un peu vieux, d'un petit peu chauve, enfin de replié sur lui-même, le mec pas marrant du tout. Et le publiphobe, est-ce que vous êtes un publiphobe qui s'ignore? La publiphobie étant une maladie, bien évidemment, la phobie étant une maladie, non pas une raison, non pas une quelconque réflexion. La publiphobie est encore trop répandue, qui consiste à détester la publicité. Un publiphobe, c'est un monsieur qui voit rouge sous l'influence des messages publicitaires, etc. La publicité profite à ceux qui lui font confiance, disait cette campagne, si je me souviens bien, c'est au début des années 80. Et effectivement, c'est un cas, sur le long terme, de colonisation des esprits, de desservelage, comme disait le grand Alfred Jarry, à quoi nous sommes entièrement soumis. Dans Casseurs de pub, cette revue lyonnaise, la revue de l'environnement mental, eh bien, il y a des montages, c'est très très habile, hein, qui sont des panneaux publicitaires comme on en voit à l'entrée de nos villes et partout, et sur un panneau, il y a « As-tu bien obéi ?» aujourd'hui. Et il y a une soumission à cette autorité de la pub. Il y a une servitude volontaire face et sous la pub qui fait que quelqu'un comme François Brune a pu faire un rapprochement entre Orwell, entre le 1984 d'Orwell et cette omniprésence et omnipotence de la pub.
Il faut plus dire la pub, il faut dire le système publicitaire, parce que c'est là la clé. Par exemple, si vous regardez, en se référant simplement à Roland Barthes, si le système publicitaire existe, bon, si des gens s'expriment à titre individuel, on n'en parle pas. Premier élément, on étouffe. Deuxièmement, si ça devient un petit peu trop bruyant, on ne peut pas ne pas en parler. Alors comment va-t-on en parler ? Eh bien par la vaccine, c'est-à-dire qu'on va dire « Oh, ce sont des gentils rebelles, etc. Il faut les comprendre. » La vaccine, l'amalgame. Oh, il y a tout là-dedans, il y a des décalés, des philosophes, un vieux gourou de 68 ans, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire que jamais on ne donne au mouvement son sens politique. Car le mouvement en question, ce qui le caractérise, si vous voulez, c'est que ça n'est plus de la publiphobie, si j'ose dire, caractérielle. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un mouvement politique de personnes qui savent quand même ce qu'ils font, à savoir, ils veulent reconquérir l'espace public. Il n'est pas normal que l'espace public soit aux mains des publicitaires. Si le métro...
1 million de panneaux publicitaires,
oui,
en
mais
France.
Mais c'est fou. Ouais. Mais le métro, par exemple, qu'est-ce que c'est que le métro? Le métro, c'est un moyen de transport, mais c'est aussi un média. on a toujours eu des affiches dans le métro. Est-il normal que ce média soit encombré par 99,9% de publicité? C'est pas normal. Alors que ça pourrait être un lieu d'éducation populaire, d'expression populaire. Les publicitaires eux-mêmes disent, ah oui, nous avons créé l'expression. L'expression née dans la rue. Et ben justement, pourquoi est-ce qu'on parle pas, pourquoi est-ce qu'on permet pas aux gens de s'exprimer dans le métro? Bon, il y a eu des choses bien, d'ailleurs, la campagne de poésie, c'était plutôt sympathique. Le fait de rémunérer certains groupes musicaux, c'est sympathique. Il y a une animation culturelle qui est possible. Et au lieu de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Cette oppression épouvantable qui n'arrête pas de vous dire partout. Il faut acheter, faut dépenser. Alors, il y a quelques mecs qui arrivent qui disent, ah non, faut pas dépenser, faut penser. Résultat, 1 million d'amendes. Faut pas dire des choses pareilles.
Mais vous faites partie vous-même des...
Moi, je ne suis pas venu de la campagne pour aller dans le métro, pour taguer des affiches, mais il faut quand même bien dire quelque chose, c'est qu'à partir du moment où il y a une oppression qui est tellement illégale par rapport à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, eh bien, il est légitime, bien entendu, d'enfreindre la légalité quand la légalité devient oppressive. Voilà.
C'est haut ces panneaux là, hein?
Hein?
C'est haut ces panneaux?
C'est un peu haut les panneaux, oui.
Ah, qu'est-ce que vous faites là? Vous attaquez un panneau de co?
On attaque un panneau de co, mais en fait c'est pas précisément de co, on en a pas après de co précisément.
C'est plutôt un panneau que vous faites. Vous êtes en train de mettre du papier craft, hein, que vous collez avec des pinceaux.
Ouais, avec des pinceaux.
Et on est en train de se prendre de la colle dessus d'ailleurs.
C'est pas très grave si ce n'est.
Ils sont applaudis de l'autre côté de la rue. Donc toi, t'en es pas à ton premier coup d'essai, j'imagine.
Non, voilà, alors il y a eu en fin d'année dernière, entre le mois de septembre et le mois de décembre, il y a eu des actions qui ont été organisées dans le métro. Ouais.
Dont t'as fait partie?
Dont j'ai fait partie. J'ai été arrêté avec d'autres personnes. En fait, j'ai eu une amende de la RATP et ensuite j'ai reçu chez moi une assignation en justice envoyée par la RATP et Métrobus qui nous réclame, à moi-même et à 62 personnes en tout, 1 million d'euros pour les dommages causés. Faut savoir que ces personnes, elles ont été arrêtées arbitrairement. Dès le départ, ils étaient au courant qu'on était là parce que c'était pas du tout caché, c'était diffusé sur internet en fait cet appel-là, et qui voulait y aller, y allait. Et on a été arrêté à la station République. Nous, on pense que ce qu'on a fait, c'était légitime. Que l'agression publicitaire dans l'espace public de la part de Métrobus, de la RATP, qui est une entreprise publique et qui a comme filiale Métrobus, qui fait partie de Publicis, je crois, un des plus gros groupes publicitaires du monde. Voilà, enfin, je pense que le droit, il est plutôt de notre côté que du leur, et on n'a pas à s'excuser pour ce qu'on a fait.
Bien portant, hépatique, arthritique, buvez Volvic, eau non gazeuse, légère à l'estomac, sans goût, de pureté absolue. Pour la table, pour le régime, une seule eau, Volvic, la meilleure et la moins chère des eaux de classe.
Buvez Volvic, 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 buvez Volvic, la meilleure eau, oh, 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 oh.
Ça date pas d'hier, des pubs comme ça, des réclames, comme on disait, eh ben ça date pas d'hier. Alors, c'est le charme du passé, on rigole, on sourit, n'empêche que c'est le même principe de la réclame à la pub à la com. Ah, la com. C'est le même mécanisme, c'est le même système de domination et de colonisation des esprits. Alors, la manif dans laquelle on se trouvait avec Thierry Scharf, c'est une manif, c'était lundi dernier, avec le chaos social. C'est une petite manif mais sympa qui a l'aide de la République au Zénith, et avec ses anti-pubs, parce que vous avez compris, le 10 mars prochain il y a ce procès dans quelques jours, procès à l'encontre de 62 militants anti-pubs pour leurs actions contre le matraquage publicitaire dans le métro parisien. Et c'est la société Métrobus, une société tout à fait privée liée à Publicis, une énorme société, mais tout à fait privée, qui poursuit donc ces militants anti-publicitaires qui, vous avez vu, il y a différentes tendances, différentes sensibilités à l'intérieur de ce mouvement, mais enfin, ils ont tous en commun de nous faire réfléchir tous sur l'emprise de la pub sur nos vies, sur nos esprits. C'est bien plus grave que le tabac, cette histoire.
Moi, c'est Bob.
Bob.
Moi, c'est Robert.
Salut, Noémie.
Alors, tous les trois, vous êtes assignés.
Vous avez fait quoi, précisément?
On a écrit, on a répondu aux messages publicitaires, on a détourné, on a recomposé, on a créé des espaces d'expression.
C'est pas nous qui dégradons la publicité, c'est la publicité qui est dégradante.
Moi, ça fait très longtemps que j'ai ce sentiment de l'agression et de l'instrument d'abrutissement qu'est la publicité. Et tout simplement, j'étais jamais à passer à l'action. J'ai entendu dire qu'il y avait une action, j'ai eu l'occasion d'enfin agir, quoi.
C'est des actions qui sont dans un cadre de désobéissance civile. Donc, c'est les personnes qui ont agi l'ont fait de manière assumée. Faut bien insister aussi sur le fait que c'était dans un cadre de non-violence. C'est-à-dire qu'on ne visait que la publicité, uniquement la publicité, qu'on n'était pas cagoulé, on le faisait de manière tout à fait ouverte, en dialoguant avec les gens, dans la bonne humeur, et les gens, au-delà de l'effet de surprise, où ils se disent « Oh là là, on s'attaque à quelque chose d'interdit en théorie, avec tous les clichés qu'il peut y avoir derrière le tag ou derrière le vandalisme. » Nous, on n'est pas dans le cadre du vandalisme, parce qu'il y a une démarche à la fois politique et philosophique, et ça veut dire qu'on s'occupe de notre espace de vie, tout simplement.
Une famille utilise ses toilettes en moyenne 15 fois par jour. Pour les garder propres et fraîches, nouveau canard WC liquide actif. Contrairement à certains blocs traditionnels, il libère la même dose de canard liquide pour nettoyer et rafraîchir à chaque chasse. Ne passez pas votre vie à nettoyer les toilettes, Canard le fait pour vous. Nouveau Canard WC liquide actif, encore une victoire de Canard.
La société de consommation est une utopie. La publicité est un rêve de papier. La publicité, c'est le culte de la performance, c'est le culte de la compétition, c'est le culte de l'apparence. C'est une vitrine, mais une vitrine qui est bien dangereuse. Dans le métropolitain, par exemple, ce sont des milliers de kilomètres carrés où il n'y a qu'un seul type de message intelligible, je ne vais pas dire intelligent, c'est un message à des fins commerciales. C'est rigolo de voir que quand on est dans le métro et qu'on commence à interagir avec cet environnement de papier, les réactions que ça peut susciter, les réactions de satisfaction, les encouragements, les applaudissements, les petites corrections quand on marque 800 millions de personnes sous-alimentées et qu'on oublie un petit E. Il y a une dame qui est sur l'autre côté du quai et puis qui le rappelle, t'as oublié un E. Ça permet l'interface, ce que ne permet pas la publicité, parce qu'elle est unilatérale, alors que la communication n'est pas, qu'on n'appelle pas la publicité communication. Ce que crache la publicité, cette vitrine, c'est la vitrine du triomphe de l'économie sur l'humain. Et ça nous fait mal, quoi. On y réagit avec nos sensibilités, même si derrière les gens qui font ces actions, il y a peut-être plein de convictions, quoi. Contre le sexisme aussi dans la pub, contre, pour des considérations écologiques, aussi tout simplement réflexe de consommateur, on la paye la publicité quand même. Quand on arrête aussi avec le fatalisme ambiant, qui dit, bah, c'est comme ça, c'est inexorable, bah, ça redonne la pêche, quoi. Ça, on y croit. Et puis aussi, il y a des gens qui s'impliquent, qui nous rejoignent, qui se joignent à nous, c'est à l'humanité. On agit en tant qu'humain. Moi, je suis pas une militante, quoi.
Cette jeune femme devrait essayer Airwick Décosprès.
Et vous pouvez faire autre chose, rien de plus simple, pour garder sa douche propre.
François Brun, vous y allez pas de main morte quand même, hein. La pub, c'est le nouveau visage du totalitarisme.
Oui, exactement. C'est un nouveau sauvage, parce que cette fois-ci, il est souriant, si vous voulez. Mm-hmm. Mais, regardez, si on prend le mot totalitarisme au pied de la lettre, c'est l'envahissement de tout l'espace. C'est l'envahissement de tout le temps. Fêtes, foires et saisons. Tout le temps. C'est l'envahissement de tous les aspects de l'être humain. C'est l'homme unidimensionnel, ça j'ai développé ça en long, en large et en travers. C'est l'envahissement, l'étude de tous les moyens, y compris le neuromarketing, le marketing olfactif, le marketing physiologique. On va tester chez les gens la façon dont ils réagissent, si j'ose dire sensoriellement, à des publicités qu'on leur montre. Enfin, c'est quelque chose de fou. C'est une mainmise progressive. Bientôt, il y aura des consommatrices ou des consommateurs qu'on va scanner pour voir ce qui se passe dans leur esprit quand on leur montre telle ou telle pub. Bon, donc il y a une entreprise.
On y est presque. Oui.
On y est presque. Il y a une entreprise qui est vraiment une entreprise de normalisation,
de desservelage,
de desservelage, de colonisation des cerveaux. Et ça, si ça n'est pas le totalitarisme, qu'est-ce que le totalitarisme?
Vous citez des slogans tout d'un coup quand on les voit sur une note en bas de page.
Bah oui.
C'est beaucoup plus terrifiant que quand on les voit dans la rue.
Bah oui.
C'est incroyable.
Bah oui.
Là, vous dites par exemple, la plupart des baisers s'achètent à Monoprix.
Oui.
Toutes nos vies sont chez Monoprix.
Oui, 2002. Ça, c'est la progression
c'est
de l'analogue.
C'est quand même balèze. toutes nos vies sont chez Monoprix.
Bah, oui.
Après, vous prenez, je sais plus quelle marque, on s'en fout. Ma crème, c'est moi.
Oui.
C'est quand même formidable. Ma Corsa, c'est tout moi.
Oui.
En Devernois, je suis moi. C'est extra. Et Kik, je sais pas ce que c'est les chaussures, Kik. Kik? Non, on s'en fout.
On s'en fout.
Oui, être Kik ou rien.
Ou rien.
Être Dim jusqu'au bout. Si t'es pas Gémeaux, tu le deviendras.
Oui, alors ça, c'est terrible.
Moi et mon auto, on déteste l'incognito. Pharmaton, maxi, moi. Enfin, c'est la vie, c'est l'essentiel de l'être qu'on a.
Mais
on
voilà,
est dans l'être.
La
là.
Pensée, et l'être, etc. Et,
là, il y a religion, là, hein.
Ah, oui, mais vous savez, l'an dernier, au mois de juin, la Redoute avait fait une campagne où on voyait un mannequin qui était habillé en tenue d'été. Et là, le slogan, c'était « À quoi allez-vous ressembler cet été ?» Même pas à qui. C'était « À quoi ?» Et elle répondait « À moi ». Donc il y a une sorte de mimétisme généralisé. Le mimétisme est lui-même cultivé comme valeur maintenant. C'est-à-dire, si vous faites pas comme les autres, on vous regarde de travers. Et ça, c'est très puissant, parce que en positif, si vous voulez, ça joue sur « je veux être comme telle ou telle star ». En négatif, ça veut dire « si tu ne ressembles pas à telle, tu es anormal ». Et la peur d'être anormal est un levier beaucoup plus puissant encore que le désir d'imiter au premier sens du terme. Et même ça conduit à la violence. C'est-à-dire qu'effectivement, si je vois un modèle qui m'échappe, et que je ne peux pas, bien entendu, le rejoindre parce que j'en ai pas les moyens financiers, je peux essayer de détruire ce que je ne peux pas être. Et si j'arrive à l'être, je méprise souverainement celui qui ne peut pas le devenir. Et il y a donc, si vous voulez, dans le système publicitaire, pas la publicité, le système publicitaire, quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qu'on voit chez Orwell, c'est que la victime se transforme en bourreau. Vous savez, c'est ce qui se passe dans Orwell, c'est-à-dire que les gens regardent tous Big Brother, très bien, donc ils sont disciplinés, et puis ensuite, Big Brother les envoie à se regarder les uns les autres, pour regarder si tout le monde regarde Big Brother, vous voyez. Et en fait, on a assisté à ça avec Love Story. C'est absolument extraordinaire, parce que l'émission prétendait s'appeler Big Brother, et on faisait croire aux gens qu'ils allaient être derrière leur télévision en position de Big Brother qui regarde, mais pas du tout. Big Brother, c'était l'écran qui force à vous regarder. Parce que la principale force de Big Brother, ça n'est pas qu'il vous regarde, c'est qu'en vous regardant, il vous oblige à regarder si il est en train de vous regarder. Et donc, vous êtes complètement incapable de vivre à l'extérieur de cela. Et Love Story, pour ça, c'était très bien. On a commencé par faire toute une campagne en disant « c'est l'événement qui va arriver ». Le matin même, sur un certain nombre de radios, dont France Inter, on disait « tout le monde va voir ce soir », etc. Moi, je me dis « ah mince, j'ai pas pensé ». Bon, donc, un certain nombre de personnes allaient voir, puisque tout le monde allait voir. Ensuite, les parents disaient « oh, ça c'est, il y a un phénomène de société, il faut qu'on regarde ce que nos enfants regardent ». Donc, les parents s'y mettaient, et les sociologues arrivaient là-dessus pour faire des tribunes dans les pages débat du Monde. « Oh là là, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment, tout le monde est en train de regarder Love Story ». Et vous voyez, il y a une sorte de discipline collective qui s'est créée à propos du mythe de l'événement. Love Story. Et c'est ça, ça fonctionne souvent comme cela.
Tous les moments d'une vie sont importants. C'est pourquoi la CNP accompagne 14 millions d'hommes et de femmes tout au long de leur vie et de leurs projets. CNP, vivez bien assuré.
Oui, c'est séduisant, mais bien sûr que c'est séduisant. Et c'est fait pour ça. J'ai pas donné de précision sur le titre qu'on a donné à cette émission, qui est « Ce n'est pas la pensée qui est unique, c'est la réalité ». Eh bien, cette phrase, elle est signée d'Alain Minc, que vous connaissez bien, qui est le Danube de la pensée du journal Le Monde, entre autres. Et ce n'est pas la pensée qui est unique, c'est la réalité. Donc, la réalité est unique. Il y a un incontournable, il y a un invariant, il y a un irrémédiable, il y a un absolu, il y a un plus fort que nous. Ah, ça rappelle quelque chose, ce plus fort que nous. Et oui, il y a un très haut. Et un très haut. Dans son traîneau peut-être, mais il y a un très haut, et c'est ce que nous disait Maggie Thatcher. On reviendra toujours, on ne citera jamais suffisamment Margaret Thatcher, qui disait « There is no alternative, il n'y a pas d'alternative ». Et c'est Inch'Allah, c'est ce que disent nos amis, Inch'Allah. Finalement, nous vivons sous l'empire de cette double divinité métisse qui nous dit Inch'Allah, et il n'y a pas d'alternative, vous n'y pouvez rien, soumettez-vous.
Nous, c'est vraiment une action hyper symbolique, quoi. D'attaquer la pub, c'est quand même le... Ça, ouais, c'est la proue du capitalisme, c'est ce qui apparaît en premier, quoi. C'est vraiment, t'es confronté au capitalisme tous les jours à travers la pub. C'est vraiment le truc qui te montre que tu dois consommer. Il y a plein de slogans marqués sur les pubs.
C'est, on va dire que c'est des citoyens qui reprennent un peu un espace qui leur est pas réservé, mais où ils auraient le droit de s'exprimer, parce que pour pouvoir afficher...
Là, c'est des collègues là qui sont derrière en train de recouvrir un 4x3, là, voilà. Un énorme panneau publicitaire.
Voilà, avec une rue assez sympa, parce que dans quelques temps, ça sera sec et tout le monde pourra écrire ses petites phrases. Je t'aime Sarah, ou je t'aime, écrire son amour sur les murs, ou écrire la joie qu'on a, ou même le malheur qu'on a. Ces espaces, ils devraient être réservés pas uniquement aux entreprises qui ont de l'argent, mais aussi aux citoyens. Je trouve qu'il devrait y en avoir plus. Tout à l'heure, c'était marrant, on était dans le métro. On était en train d'éteindre les pubs, en fait, parce qu'il y a des petits boîtiers qui éclairent les publicités sous verre. T'as juste besoin de l'éteindre. Bon, la pub, elle se voit encore, mais au moins, on fait économiser de l'électricité à l'État et à la RATP. Donc, on peut pas dire qu'on leur coûte de l'argent, parce qu'on leur fait économiser de l'électricité, un peu symboliquement.
Eh, dites, ça vous donne pas faim de les voir manger? Bon, bah, allez, on y va. Vous savez, tous ces bons grains qu'on leur donne, tous ces champs, c'est ça qui donne les bons poulets que vous aimez.
Moi, je voudrais que les poulets donnent que des cuisses.
Moi, que des blancs.
Ah, bah alors là, je connais quelqu'un qui peut vous mettre d'accord.
Les meilleurs morceaux des fermiers de Loué, le bon goût partagé.
Vous devinez ce que je vous ai préparé.
Mais quand même, à l'intérieur de ce mouvement, quand on vous écoute, vous, on voit bien une forme de radicalité qui veut aller sur l'idéologie dissimulée derrière le système publicitaire, oui. Et qui entend bel et bien se battre contre cette idéologie-là, mmh. d'une manière claire et forte. Mais dans le mouvement anti-pub actuel, il y a des gens qui sont des réformistes, qui veulent d'autres formes de pub, d'autres tailles des panneaux, moins de panneaux ou seulement dans ces zones-là, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes démarches, au fond.
Non, c'est pas du tout les mêmes démarches. Mais mais bien entendu. C'est-à-dire que, bon, que faut-il en priorité, si vous voulez? Bon, on peut effectivement être radical.
La réforme ou la révolution?
Oui, non, mais justement, c'est pas ça, en fait. Le fait, c'est d'être radical, si j'ose dire, à long terme. C'est pas la même chose. Parce que souvent, les révolutionnaires sont extrémistes sur l'instant, et puis 5 ou 6 ans après, bon, bah, ils ont tourné Kazakh, hein. Voilà. Non, il faut être radical sur le fond. Et c'est évident qu'avec tous les réformistes, comme on dit, on peut déjà faire reculer très largement l'espèce de gâchis du paysage urbain ou du paysage tout court, dans la douce France. Parce qu'il paraît que dans des pays étrangers, ça n'en est pas à ce point-là. Bon. Mais, effectivement, plus profondément que cela, l'idéologie de la consommation, elle passe par les spots publicitaires ou par de multiples autres moyens. Disons que les images ou les panneaux ne sont pas le seul vecteur par lequel, le seul support, ce qu'on appelle ça maintenant des supports, par lesquels passe effectivement l'idéologie publicitaire. Mais plus profondément, en fait, c'est un travail idéologique qui suppose l'éducation, qui suppose une conscience critique. Parce que si on reste au niveau épidermique, qui consiste à dire je ne supporte pas cette affiche, je la lacère, et puis je suis content, ça ne suffit pas. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens conscients de ce mouvement savent bien que, au-delà du recouvrement de ces affiches, ce qu'ils veulent, c'est faire une sorte de prise de conscience pour que les gens se disent tout d'un coup, mais en fait, c'est pas naturel qu'on vive dans un monde qui est bariolé d'affiches à ce point-là. C'est pas naturel que sur les trottoirs, on bute sur des panneaux. C'est pas naturel que lorsque je me promène avec ma petite fille qui a 8 ans, elle voit tout d'un coup un étalon blanc en train de saillir une jument noire ou l'inverse, c'est Benetton qui se demande qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas naturel que je vois telle affiche de Jean-Paul Gaultier où il y a une blanche à la poitrine dénudée avec derrière elle un homme grimé en noir et qui lui prend les seins des deux mains, vous voyez. Et quand vous voyez ça, vous avez vraiment l'impression d'une sorte de viol par derrière. Et qu'est-ce que je vais dire à ma petite fille qui a 8 ans? Effectivement, l'idéologie est là, il faut expliquer. Il faut aller bien au-delà, effectivement, que le simple recouvrement. Mais ça peut être l'occasion, et effectivement, si les médias donnent donnent un peu d'écoute à ce mouvement, d'aller plus loin. Mais le problème, le gros problème, effectivement, c'est que l'action anti-publicitaire risque d'être, si j'ose dire, falsifiée, par la façon dont les médias en rendent compte, oui, qui reste médiatique.
Il y a un couple média et pub, et qui était, il ne peut pas y avoir de divorce. Quoique ici, nous avons très très peu de pubs dans nos radios. Ben oui, c'est formidable. Et dès qu'il y en a trop, les auditeurs se mettent à
Oui, parce que le matin, ça commence à faire mal.
Oui, très critique. Parce que sur les, je crois qu'il y a 1200 radios en France, je répète ce chiffre-là sans l'avoir d'ailleurs trop vérifié. Enfin, je pense qu'à 90%, toutes ces radios sont redevables à la pub. Donc, la critique de la pub ne peut être que limitée ou simplement réformiste. Alors, que faire? Comment résister, comme ça, individuellement ou collectivement?
Mais moi, je suis limité, si vous voulez, à ma propre fonction, si j'ose dire, de prof et d'intellectuel. Bon, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à décoder, et au-delà du décodage purement rhétorique, de voir ce que c'est que l'idéologie. Et de prendre conscience par rapport à ça, c'est-à-dire de prendre conscience, pas simplement individuellement, de prendre conscience de ce que ça représente au niveau de la collectivité, même de la planète. Il y a une prise de conscience qui est fondamentale, qui est à faire. Si effectivement le bon côté de la mondialisation, c'est de me sentir membre d'une humanité prise globalement et responsable en même temps que membre, alors effectivement, partir de l'idéologie publicitaire pour voir un petit peu où va le monde actuel, c'est une bonne chose, c'est une bonne prise de conscience qui peut ramener à une certaine citoyenneté au bon sens du terme.
On fait des erreurs au quotidien sur TF1. Une petite pause toute courte et nous revenons après celle-ci. Money, money, money,
always sunny. Cette idéologie-là, elle est au service quand même d'un Occident qui vit une surabondance qui est démente sur le plan de l'avenir de la planète, par opposition, si vous voulez, à ce qui se passe dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Et là, effectivement, il y a des choses où, finalement, on ne peut presque plus sourire, si vous voulez, parce qu'on est en train d'enfermer les enfants de l'Occident dans des mythes de l'abondance, pour leur cacher effectivement que leurs petits frères qui produisent à 14 ans des Nike pour eux dans des bouges infâmes, eh bien sont complètement démunis. Et donc en fait là, ce à quoi mènent les limites de la publicité comme idéologie de la consommation, c'est à la question de l'avenir de la planète et des modèles économiques qui sont les modèles dominants actuellement. Et enfin, je ne sais pas, vous avez peut-être reçu le nouveau journal intitulé « La décroissance », qui est lancé par le groupe des casseurs de pub et qui essaye effectivement de montrer au public, de faire réfléchir le public sur tout ce qu'implique ces comportements de consommation que l'on peut avoir, même lorsqu'on a une consommation qui est, si j'ose dire, éthique, tout ce que ça implique sur le plan de l'avenir de la planète. Et là, effectivement, le sourire, si vous voulez, se dessert par rapport, effectivement, au côté gamin et enfantin de ces publicitaires. On se dit, mais dans quel monde, effectivement, cette espèce d'idéologie nous entraîne tout en nous aveuglant sur ses conséquences?
Alors en effet, La Décroissance est un journal qui vient juste de sortir, le journal de la joie de vivre. On arrête les bêtises, c'est vachement bien, je viens de le feuilleter. Et ça rappelle, pour les vieux comme moi, ça rappelle l'époque bénie de la gueule ouverte, avec un hommage d'ailleurs à Fournier. Merci à tous, merci à François Brune. Je rappelle le titre de son bouquin, L'idéologie aujourd'hui, aux éditions Parangon. Reportage Thierry Scharf, technique aujourd'hui Patrick Henry et Benjamin de la Gâtinais. Créatif de musique Coyenne Guyenne. Créatif de la mise en onde Antoine Chao. Créatif assistante Anne de Giaferi. Et créatif répondeur Christophe Imbert, 01 56 40 37 37, le numéro du répondeur. On se retrouve demain à 17h pour la basse, si j'y suis. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon.